Nouvelle édition de l'économie en question, une tentative aujourd'hui de démêler les nœuds bien complexes des relations commerciales internationales, d'y voir clair dans la confusion actuelle, due à une situation économique dégradée, il est vrai, mais aussi aux péripéties rencontrées par de nombreux accords conclus ou prévus entre les pays de part et d'autre de la planète. Le processus de ralentissement était déjà engagé, les échanges mondiaux avaient subi une baisse sensible en 2015, puis en 2016, atteignant même un niveau inférieur à celui de la croissance, 1,7%, et le plus faible depuis la crise financière de 2008. Le directeur général Roberto Azevedo de l'Organisation mondiale du commerce avait fait part, c'était donc fin 2016, de son inquiétude, un ralentissement impressionnant, disait-il, lié à l'hostilité croissante à l'égard de la mondialisation. Et d'ajouter, je le cite, « Nous devons faire en sorte que cela ne se traduise pas par des politiques inconsidérées qui risqueraient d'aggraver encore plus la situation ». C'est bien la question que nous allons nous poser. Y sommes-nous aujourd'hui à ces politiques inconsidérées? Nous allons le demander à nos trois invités. Les décisions déjà prises, les menaces proférées par l'administration américaine suscitent bien des réactions, parfois paradoxales et beaucoup d'inquiétudes, car les équilibres dans les relations commerciales internationales, en dépit des règles patiemment construites, sont particulièrement fragiles. C'est ce que nous allons voir de près. Il sera aussi question sans doute du Brexit. Et nous, la France, dans tout cela, traité, échange mondiaux, la grande pagaille, c'est notre titre. Et nous sommes contents d'accueillir Laurence Daziano, maître de conférences en économie à Sciences Po, la Fondation Fondapol. Aurélie Trouvé, enseignante, chercheure, spécialiste des questions agricoles et porte-parole d'Attaque France, Attaque Alter Mondialiste, hein, c'est ainsi qu'il se présente. Et Sébastien Jean, enfin, directeur du CPI, Centre d'études prospectives d'information internationale, spécialiste, grand spécialiste lui aussi, des questions internationales. Je vous ai demandé à chacun de commerce international, je vous ai demandé à chacun de venir avec un chiffre, celui que vous voudrez, pris dans l'actualité. Et nous accueillons aussi la chronique de Marie Bellan, journaliste aux Échos, présente avec nous. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Un rappel pour commencer, avant d'en venir à ce qui nous attend dans les mois prochains. Les causes de la baisse du commerce, donc après 2008, il est vrai, un ralentissement quand même notable, hein, je l'ai dit, le patron de l'OMC s'en inquiétait, du côté peut-être des pays émergents, la Chine en tête, également le Brésil, un panorama économique qui reste assez sombre, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OCDE et donc l'Organisation mondiale du commerce s'en sont inquiétés, d'ailleurs nous en avons tous fait le constat. On revient peut-être sur les causes pour les uns et les autres de ce net ralentissement du commerce mondial. Sébastien Jean ?
Pour moi, il y en a principalement deux. La première, c'est la Chine, le rééquilibrage de la Chine, qui, à vrai dire, a commencé il y a longtemps. Il a commencé il y a 10 ans environ. Le sommet, le pic d'ouverture, de taux d'ouverture de la Chine, hein, simplement en pourcentage des exportations relativement au PIB, c'était en 2007. 35%, on a perdu presque 10 points depuis. Donc, il y a eu vraiment un mécanisme de rééquilibrage qui dure depuis longtemps. Le deuxième point, et celui-là, il est plus récent, et il dépasse la seule Chine, c'est la fin d'un phénomène de fractionnement des chaînes de valeur, donc de division international de plus en plus poussé du travail. Ça ne veut pas dire qu'on est revenu en arrière, ça veut dire simplement que ce mouvement de fractionnement, il s'est arrêté. Et ça, tous les indicateurs le montrent, il y a eu même un léger reflux. Je ne crois pas qu'il faille parler de démondialisation parce qu'on ne voit pas de reflux massif. On parle souvent, c'est assez à la mode, de reshoring, relocalisation. Ce n'est pas des phénomènes massifs pour l'instant, en tout cas. Mais en revanche, le phénomène d'investissement massif, de fractionnement donc de ces chaînes de production entre différents pays, celui-là, il s'est à peu près stoppé.
Bien, Laurence Daziano, on dit que le rythme de progression des exportations des pays émergents, hein, qui est l'une des régions que vous étudiez beaucoup, diminue de plus de moitié entre 2015 et 2016. Ce chiffre m'a paru vraiment impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Avant, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Sébastien Jean. Effectivement, dans le ralentissement de la mondialisation, il y a aussi le fait que les entreprises, les grandes entreprises mondiales, celles qui ont justement participé au fractionnement de la chaîne de valeur, elles en arrivent un petit peu au bout de leur logique. Elles ont tiré tirer le meilleur de cette mondialisation. Et maintenant, il leur faut trouver d'autres sources de productivité. Sur les salaires, on a arrivé à tirer le plus parti. Et on voit qu'en Chine, les salaires ont beaucoup augmenté. Donc, on va vers d'autres pays. L'optimisation fiscale, on arrive aussi au bout de la logique. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues trop complexes. Et ça participe aussi au fait que, effectivement, il n'y a pas une démondialisation parce que ce qui est en place va encore le rester. Mais le mouvement d'avancée que l'on connaissait depuis lors s'est arrêté. Sur la baisse des investissements ou de la part du commerce mondial des émergents, oui, parce que les émergents, ils font là face à plusieurs crises. La première, ça a quand même été pour de nombreux émergents la fin du pic des matières premières. Donc à partir du moment où beaucoup d'émergents vivaient sur la rente des matières premières et la rente pétrolière, il ne faut pas oublier quand même que le baril de pétrole a perdu la moitié de sa valeur en un an.
Vous parlez par exemple du Venezuela, j'imagine, qui a été extrêmement touché, mais même les pays d'Afrique, la Russie,
l'Angola, le Nigeria ont été très touchés.
Oui. Enfin, Aurélie Trouvé, toujours sur cette analyse de ralentissement du commerce, je citais Roberto Azevedo, le président directeur général de l'OMC, qui disait que tout ceci était lié à une hostilité croissante à l'égard de la mondialisation. Que veut-il dire ?
Que veut-il dire ?
Hostilité que vous partagez, je le précise, avec Attac.
Hostilité par rapport à une certaine forme de mondialisation, et je précise bien que nous sommes des altermondialistes et on a toujours prôné une mondialisation qui soit fondée sur la coopération et non pas sur la mise en concurrence et la libéralisation des marchés. Et nous avons toujours été attachés dans le mouvement altermondialiste, notamment au multilatéralisme, c'est-à-dire au fait qu'on ait une régulation commerciale qui soit fondée par exemple sur des régulations des volumes d'exportation, mais aussi sur et pour mettre avant tout en avant les droits sociaux et aujourd'hui la protection de l'environnement. Et nous semble au contraire qu'il faille absolument une régulation du commerce, ne serait-ce que pour les questions de protection du climat, mais aussi, par exemple, pour réguler tout ce qui a trait aux investissements étrangers. On voit par exemple que l'accaparement des terres aujourd'hui est un phénomène de plus en plus prégnant et qu'il y a besoin d'une régulation forte à l'échelon mondial pour réguler ces investissements et faire en sorte qu'il n'y ait pas une part de plus en plus importante des surfaces agricoles qui soient aujourd'hui accaparées par des multinationales au détriment de l'agriculture familiale et paysanne et de la sécurité alimentaire.
J'ai bien parlé d'altermondialiste, mais vous faites bien de le préciser parce que c'était auparavant le terme et vous n'y tenez plus du tout. Je voudrais aussi donc revenir, en fait c'est vous qui pointez cela, les accords multilatéraux, c'est bien ça qui est au centre de notre discussion d'aujourd'hui et c'est bien cela, il faut le dire, qui est menacé par les premières mesures prises dès le 23 janvier, premier jour quand même de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, effective, les premières annulations donc des grands traités et qui nous emmènent vers effectivement une mise en danger des accords multilatéraux, pour dire les choses autrement, vers peut-être la mort de l'Organisation mondiale du commerce dont c'était quand même la mission. Oui. Sébastien Jean, Laurence Dazianowski.
Mais je crois que Donald Trump, lui non plus, il n'est pas contre la mondialisation, il est pour une autre forme de mondialisation. À la mondialisation actuelle, basée sur des règles, qui sont les engagements pris par les différents pays au sein de l'OMC, il veut substituer des deals qui, eux, sont basés sur les rapports de force. Et d'ailleurs, il l'a dit, même par rapport à ses anciens partenaires de ce qui devait être le partenariat transpacifique, il a dit « je serai ouvert à des deals bilatéraux ». Le NAFTA aussi, il a dit « pourquoi on ne fait pas des accords bilatéraux ?» Et donc, sa position, c'est dans le commerce, on est à extraire le plus possible de concessions, d'avantages par rapport à l'autre. On est dans un jeu à somme nulle, c'est un pur rapport de force. Et puis, il n'y a aucune raison de faire autre chose que de maximiser ce qu'on peut en tirer par la confrontation.
Je suis le plus fort, c'est moi qui gagne, c'est moi qui pèse.
Absolument. Et donc, le système multilatéral, il était basé sur des règles, qu'après, on peut penser ce qu'on veut de ces règles, mais c'était quand même ça le principe. Il y avait des accords, des engagements réciproques pris dans les traités qui fondent l'OMC, et puis ensuite, il y avait la possibilité de, disons, d'essayer de vérifier l'application par les différents pays. C'était tout à fait loin d'être parfait. Ça me fait penser au mot de Churchill sur la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Probablement, ça s'applique assez bien à l'OMC, c'était bourré de défauts.
La question qui se pose
maintenant, je pense, c'est est-ce qu'on a un meilleur système à mettre à la place ?
Oui, et puis surtout, c'était protéger quand même les pays les plus faibles. Là, vous parlez de rapport de force, mais dans les accords et les règles du commerce international, il y a quand même, à terme, par exemple, le besoin de protéger les pays en voie de développement sur leurs prêts agricoles. C'était quand même, ça faisait partie des débats dans le fameux cycle de Doha, qui a échoué, comme on le sait. Et donc, tout ça risque de s'arrêter. Aurélie Trouvé.
Oui, alors déjà, est-ce qu'on peut faire mieux d'abord dans l'histoire? Il y a eu des tentatives et même une mise en œuvre d'une politique commerciale qui a été beaucoup plus fondée sur la coopération. Alors, en termes de projet, ne serait-ce que le projet de John Maynard Keynes, hein, qui était justement, et autour également de la charte de La Havane, hein, qui, après la Seconde Guerre mondiale, voyait justement une toute autre forme de mondialisation et de régulation à l'échelle mondiale que celle que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y avait des accords qui existaient et qui étaient fondés sur toute autre chose. Je prends par exemple les accords de Yaoundé, Lomé, Cotonou avec les pays du Sud, hein, nos anciennes colonies, mais qui par exemple étaient fondés sur une asymétrie commerciale, étaient fondés par exemple sur le STABEX qui permettait de stabiliser les prix des produits d'exportation de ces pays du Sud. Il y avait une volonté réelle de développement de ces pays en prenant en compte le fait que nous n'étions pas égaux dans cette compétition. Donc ça existait, c'est absolument pas utopiste, simplement on est plongé aujourd'hui depuis 30 ans dans un néolibéralisme effréné et on a l'impression que ça n'a jamais existé. Mais bien sûr qu'on peut revenir à une mondialisation qui soit coopérative et de solidarité.
Je vois Sébastien Jean.
ACP à un système multilatéral de gestion du commerce mondial. Les accords ACP, c'était vraiment la gestion post-décolonisation des relations entre l'Europe et ses anciennes colonies. C'était purement asymétrique, c'était motivé par une coopération politique, la volonté de prolonger une coopération politique. Maintenant, au niveau multilatéral, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est-à-dire que chacun des pays veut défendre ses intérêts, qui plus est, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont un peu finalement construit, ont été l'architecte du système. Ils ont mis en avant des principes, ils ont proposé un système et au fond, ils l'ont géré d'une certaine façon. Maintenant, la question, c'est qu'il y a plus leader. C'est d'autant plus dangereux que c'est le leader lui-même qui est en train de déstabiliser le système. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? C'est ça la grande inconnue.
Laurence Vaziano.
Effectivement, je crois que l'OMC est empêtrée dans son cycle de Doha. Elle n'arrive pas à s'en sortir et le multilatéralisme pour un temps est vraiment handicapé. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit arriver le multilatéralisme et le traité ou le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique étaient également en discussion, en sont bien les tenants. Le problème de...
Il refuse l'un et l'autre, hein, je le rappelle.
Voilà, le problème de M. Trump, c'est que quand on veut imposer des accords en disant je suis le plus fort, le jeu à somme nulle, en fait, tout le monde est perdant. Or, quand on veut traiter, que ce soit en multilatéral ou en bilatéral, vous ne pouvez traiter que si tout le monde y gagne. Si on n'y gagne pas, il y a un problème de réciprocité et on le voit bien aujourd'hui, c'est un des problèmes de la Chine sur la scène mondiale et son problème de reconnaissance de statut d'économie de marché, comme il n'y a pas de réciprocité, il y a un moment où le système se grippe. Au-delà de ça, le grand enjeu aujourd'hui de ces accords commerciaux bilatéraux ou entre zones, ce ne sont plus les barrières tarifaires. Ça, maintenant, les barrières tarifaires, elles sont à moins de 5%, ce n'est plus le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont de nouveaux accords commerciaux, que ce qui est en jeu dedans, ce sont tout ce qui est normes, que ce sont les normes sanitaires, sociales, environnementales, que c'est ça qui est important et que si nous n'arrivons pas, nous occidentaux, entre les Européens, les Américains, les Canadiens, on l'a vu avec le problème du CETA, à fixer ces normes que demande l'opinion publique, parce qu'effectivement on demande à pouvoir manger comme on veut et pas forcément du bœuf aux hormones ou des poulets lavés au chlore, hein, et bien il faut fixer nous-mêmes ces normes et ces critères. Si nous ne le faisons pas, et on le voit en Asie avec le retrait des États-Unis du partenariat transpacifique et qui est une véritable catastrophe pour le commerce mondial, parce que ça laisse une place à la Chine qui est extraordinaire. C'est la Chine qui va elle-même mettre ses propres normes qui ne vont pas correspondre aux attentes qu'ont les opinions publiques occidentales. Et avec la force de l'industrie chinoise derrière, ils vont nous sortir tous les produits et l'industrie qui va avec, qui ne seront pas à nos normes. Et le danger, il est là aussi. Et il faut en avoir conscience.
Oui, Donald Trump qui a dit d'abord que ces accords, hein, tous, alors transpacifique, transatlantique, on a bien compris qu'il ne les respecterait pas. Il suffit de ne pas les respecter, même pas de les abolir ou de les, quand même s'ils ne sont pas tout à fait signés. Il les a qualifiés, ces accords sont un désastre. Et l'OMC est un désastre, a-t-il d'ailleurs ajouté. C'était pendant sa campagne, je crois, hein, avant même d'être élu. Il menace également donc d'imposer des droits de douane punitifs, je cite, aux importations en provenance de Chine à hauteur de 45% ou du Mexique à hauteur de 35%. C'est quand même un inventaire assez apocalyptique, hein, qu'il a fait de tous ses projets. Et pourquoi la Chine aurait-elle tant à y gagner gagner, Sébastien Jean, comme vient de commencer de nous le dire Laurence Daziano?
Moi, je ne sais pas si la Chine attend à y gagner que ça, précisément parce que, comme vient de l'expliquer Laurence Daziano, ça risque d'être un jeu où tout le monde est perdant. C'est-à-dire que ce que les États-Unis vont perdre comme place, ça ne sera pas forcément un gain pour la Chine. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la Chine y voit une opportunité géopolitique.
Voilà.
C'est-à-dire que
il y avait
vraiment
l'enjeu. Leadership.
Voilà, le pivot mis en œuvre par l'administration Obama, c'était quand même une politique d'endiguement de l'influence de la Chine en Asie pour essayer de garder un rôle central que les États-Unis avaient eu depuis la Seconde Guerre mondiale dans l'organisation de la vie, de la sécurité en Asie avant tout et un peu de l'économie aussi. Donc, en se dégageant de ça, finalement, les États-Unis laissent un vide qui est un cadeau pour la Chine. On a bien vu la réaction, le discours de Xi Jinping à Davos, qui est d'ailleurs un peu hypocrite.
Très frappant,
parce qu'il joue les vertueux alors que...
Oui, il a carrément dénoncé le protectionnisme, ce qui a quand même...
Voilà. Donc,
la Chine, pardon, est elle-même une économie très fermée et qu'on voit depuis trois ans que les investissements étrangers, ils sont très difficiles.
Voilà. Bien très fermée, mais très consciente de tous les gains que lui procure la mondialisation. Donc la Chine, il voit effectivement une opportunité de renforcer son influence en Asie. Et concrètement, qu'est-ce qui se joue dans le partenariat transpacifique? En particulier, il y avait des règles assez précises sur la définition et les engagements qu'on demandait aux entreprises d'État sur la circulation des données et les restrictions qu'on pouvait leur apporter. Tout ça, les États-Unis avaient imposé leurs règles dans le cadre du partenariat transpacifique, là ils se retirent, et donc la Chine va imposer les siennes à la place, c'est-à-dire que, en gros, la plus grande liberté possible pour les entreprises d'État, le fait d'avoir des barrières en termes de circulation des données comme le pratique la Chine, et puis un certain nombre d'autres aspects comme ça. Donc il y a quand même effectivement cet intérêt à pouvoir imposer ces règles du jeu sur la régionalisation
économique. Oui, bien sûr, on rappelle que ces accords donc avaient été signés par Barack Obama, il y tenait beaucoup, et dans son esprit c'était bien sûr d'éviter que la régionalisation en Asie soit entièrement structurée par la Chine, mais pas ratifiée. Et donc voilà, en un seul paraphe, 8 ans de négociations rayées d'un trait de plume. On l'a tous vu, on a même vu l'image. Et une alliance qui devait, je le rappelle, concentrer 40% du PIB mondial et un tiers des échanges commerciaux de la planète. Ce n'est pas rien. Aurélie Trouvé, on a souvent entendu les altermondialistes, et dont le mouvement, bien sûr, attaque que vous représentez, s'opposer à ces grands accords transpacifiques et transatlantiques. Vous êtes beaucoup battu contre le TAFTA et contre le CETA, accord Europe-Canada. Et voilà que Donald Trump vous fait ce cadeau de les rayer.
D'abord, je le précise, je crois qu'on n'a absolument pas la même critique en fait de cette mondialisation, et je crois que justement il est urgent aujourd'hui de réfléchir à une autre mondialisation sur je veux dire dans une perspective progressiste, pour ne pas laisser la place à ce discours qui fait son chemin de manière très importante avec Donald Trump, mais aussi on le voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec
on
le Brexit.
On peut parler du Brexit, absolument.
Voilà. Et donc des forces réactionnaires anti-migration qui arrivent au pouvoir parce qu'à mon avis nous n'avons pas eu de réponse progressiste à cette mondialisation. Nous n'avons pas su mettre en place une mondialisation qui soit porteuse d'espoir, qui soit porteuse de progrès social, de progrès écologique, qui permette de diminuer les inégalités mondiales et au sein des pays, etc. Et oui, le bilatéralisme aujourd'hui et son développement est une mauvaise nouvelle, parce que ça permet aux pays riches, notamment un rapport de force bilatéral je dirais plus favorable aux pays riches, mais surtout à leurs multinationales, mais aussi parce que ça poursuit la libéralisation des marchés de manière beaucoup plus approfondie que dans l'OMC, avec des risques beaucoup plus importants. Je pense à la question évidemment des droits de douane dans le secteur agricole. Le CETA, l'accord Union européenne-Canada, qui va être voté au Parlement européen le 15 février, cet accord CETA va engendrer des baisses massives de droits de douane dans le secteur agricole, avec par exemple pour la viande bovine, on le sait, des conséquences très graves dans ce secteur-là, de la même façon que ça va faire pression, et ça a été montré par un rapport du Parlement européen sur le TAFTA, l'accord avec les États-Unis, faire pression vers le bas également sur les normes sanitaires, phytosanitaires, environnementales. Et ça n'est pas de la paranoïa. Il y a des rapports qui sortent de manière régulière sur ces risques à travers ces accords de libre-échange. Donc, multilatéralisme dans une perspective progressiste en mettant en avant avant tout les droits sociaux et environnementaux.
Donc, quand même pour des droits internationaux, mais pas de cette manière, pas cela.
Voilà, et une régulation commerciale qui soit avant tout fondée sur les droits humains fondamentaux.
Laurence Dazienneau, je vous ai vu réagir un petit peu à ce que disait Aurélie Trouvé.
Oui, sur la mondialisation. La mondialisation aujourd'hui a mauvaise presse. Faut quand même pas oublier que c'est grâce à la mondialisation que vous avez près d'un milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté dans le monde. Donc c'est quand même important. Elle a quand même fait beaucoup, notamment dans les pays émergents. Quand vous voyez le Vietnam qui a sorti plus de 25 millions de personnes de la pauvreté en 15 ans, sans parler de la Chine où là ça se compte en centaines de milliers. C'est un peu plus de 500 millions de personnes. Le problème de la mondialisation, ça a été la pédagogie. On n'a pas fait de pédagogie, on n'a pas accompagné, on n'a pas dit assez quels étaient les bienfaits de la mondialisation, parce qu'il y en a, aussi. Et en ce faisant, on a oublié de dire les aspects positifs, mais on a oublié aussi, c'est vrai, de protéger les perdants, c'est-à-dire l'homme blanc du Middle West qui a voté Trump, c'est-à-dire l'anglais... qui a vu les bassins industriels péricliter et qui n'a plus d'emploi. Maintenant, il va falloir le faire et protéger les perdants. C'est notamment développer des politiques de formation parce qu'il faut créer de nouveaux emplois. On voit aussi que le chômage et les pertes d'emploi, c'est plus la robotisation que la mondialisation. Et ça, on le voit notamment beaucoup aux États-Unis. Il y a beaucoup de gisements de nouveaux emplois.
C'est discuté à ce point-là, hein, robotisation, perte d'emploi.
Oui, c'est encore un débat. Mais néanmoins, il y a une corrélation.
Pas encore, d'ailleurs, ça commence.
Et dans les services, la santé, les personnes âgées, il y a des gisements d'emploi. Donc, il y a des politiques de formation à développer pour justement atténuer ces mauvais effets de la mondialisation.
Oui, Sébastien Jean, sur ces nouvelles menaces donc, qui pèsent. Il y a encore d'autres.
Moi, deux choses. D'abord, je crois que la mondialisation a bon dos. On met beaucoup de choses sur le dos de la mondialisation. Je ne vois pas du tout, dans l'accord avec le Canada, une menace pour nos régulations. S'il y a bien un pays dont le système est très proche du nôtre... et les valeurs sont très proches du nôtre, c'est celui-là. Et de la même façon, pour les États-Unis, le gros problème, c'est quand même que les États-Unis ont eu des politiques désastreuses dans la gestion, l'accompagnement des évolutions, d'ailleurs technologiques et de mondialisation des dernières années. La polarisation du marché du travail, la stagnation des salaires de toute la classe moyenne, rien n'obligeait les États-Unis à ne pas mettre en œuvre, disons, des politiques redistributives plus marquées. La deuxième chose, c'est que je suis d'accord sur le fait qu'il faut assortir, disons, quand on libéralise le commerce, on a plus de relations d'un pays à l'autre et du coup, on a plus d'interactions avec les politiques de régulation. Ça pose problème parce que ça augmente ce qu'on appelle les effets de fuite. C'est-à-dire, si je fais une régulation plus contraignante qui augmente mes coûts de production, je risque d'avoir une perte de compétitivité et de finalement d'en payer un prix qui va être d'autant plus élevé que le commerce sera libéralisé. Donc, je pense que, et c'est ce qui est fait déjà un peu, mais il faut aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Et effectivement, moi, je suis assez pour... disons, développer les clauses non commerciales dans les accords commerciaux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, quand on libéralise, dire voilà, pour libéraliser, il faut aussi qu'on soit d'accord sur un certain nombre d'objectifs à côté, sociaux, environnementaux et même fiscaux. On le voit dans la discussion autour du Brexit et je pense qu'il y a matière probablement à conditionner l'accord commercial qu'on pourrait passer avec le Royaume-Uni à des minima, par exemple, sur le taux d'impôt sur les sociétés. Pourquoi pas ?
Oui. On aurait tort de penser que Donald Trump n'a pas les moyens de casser, comme il vient déjà de le faire, donc avec l'accord transpacifique, tous ces accords les uns après les autres, ou de ne pas les respecter. On pourrait penser que tout de même, il y a le Congrès, qu'il y a des règles internationales, mais elles sont assez fragiles, hein, je l'ai dit en commençant.
Absolument, c'est paradoxal parce que aux États-Unis, le commerce extérieur est la prérogative du Congrès. Mais en fait, le président des États-Unis peut se prévaloir de la politique étrangère, donc pour le coup, il a la responsabilité. Et par ailleurs, il y a beaucoup de contre-pouvoirs, mais ils sont lents. Donc, casser quelque chose par une décision qui est contestable, ça produit des effets tout de suite, tandis que la contestation de cette décision par la voie juridique, elle va arriver beaucoup plus tard.
Et de réétablir de nouvelles règles et le reste, on sait que ça peut prendre énormément de temps.
De détruire que de construire, en fait.
Oui. Très vite, Aurélie, trouver les dernières...
Non, mais quand vous dites qu'il faut des normes non commerciales, tout à fait, dans le CETA, il se trouve qu'il n'y a aucune...
Vous parlez à Sébastien Jean.
Voilà. Et il se trouve que, par exemple, dans le CETA, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais enfin, c'est vrai qu'il fait plus de 1000 pages avec les annexes, il n'y a aucun dispositif contraignant qui permette de s'assurer, par exemple, qu'il n'y aura pas de remise en cause sur nos normes, sur le principe de précaution qu'on a dans l'Union européenne, sur les OGM. OGM, sur le bœuf aux hormones, etc. Alors qu'on sait qu'il y a déjà des plaintes à l'OMC, notamment de la part du Canada, qui ont abouti sur toutes ces questions-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur les inégalités mondiales. Les inégalités mondiales...
Et là, vous parlez à Laurence
Daziano. Laurence, d'Aziano. Les inégalités mondiales, elles se sont stabilisées entre individus depuis 30 ans, premièrement. Et deuxièmement, elles augmentent depuis 20 ans dans un certain nombre de grands pays, y compris les États-Unis. Donc déjà, ce bilan sur les inégalités est à discuter. Ensuite, c'est pas parce que dans un pays, vous avez des inégalités qui diminuent que c'est lié à la mondialisation. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de conséquences très négatives d'accords de libre-échange qu'on peut concrètement et clairement relié à ces accords. Je prendrai le cas de l'ALENA. On sait aujourd'hui, il y a des études économiques qui sont produites qui montrent qu'il y a eu des suppressions massives d'emplois liées à cet accord-là. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Donald Trump s'en saisit pour développer son discours anti-mondialiste. C'est parce qu'on n'a pas su répondre à la mondialisation de façon progressiste. Et il est urgent de le faire aujourd'hui.
Oui. Laurence Daziano parlait d'une réduction de la pauvreté.
Oui, tout à fait.
Les inégalités, effectivement, continuent de croître.
Dans les pays émergents, la mondialisation, le développement des échanges ont quand même permis d'augmenter le niveau de vie et de faire passer les gens avec un peu plus de $2 par an. Je voudrais continuer ce que disait Sébastien Jean sur les pouvoirs du président américain. On voit bien sur l'ALENA qu'il a décidé, parce que c'est la structure de l'ALENA qui fait ça, de le remettre en cause, et que pour le Mexique, c'est une catastrophe, parce que 80% des exportations mexicaines vont aux États-Unis et que c'est tout le modèle économique mexicain qu'il faudra revoir, alors que c'est un des pays émergents importants dans le monde.
Voilà, un dossier à suivre. Bien évidemment, nous y retournerons et nous reviendrons aussi sur les chances peut-être pour l'Europe de nouveaux accords commerciaux si elle sait réagir et notamment répondre à une autre grave menace, on l'a à peine évoqué pour ses aspects commerciaux, c'est naturellement le Brexit. Merci à tous les trois pour vos éclairages. On passe à vos chiffres. Et on commence par celui des Échos, en tout cas de Marie Bellon.
Oui, c'est un chiffre qui en dit long sur le marché de l'emploi en France. Alors pour 73% des jeunes de 18 à 29 ans, le CDI reste l'objectif majeur à atteindre. Alors ce chiffre, qui est tiré d'un sondage qui a été effectué cette semaine à l'occasion du Salon des Entrepreneurs, il permet de tempérer un petit peu l'enthousiasme quand même d'une partie de la classe politique, mais aussi des acteurs économiques qui estiment que le salariat, notamment en CDI, est voué à disparaître. Alors si c'est le cas, ce que je ne crois pas, on peut tout de même dire qu'il sera regretté, hein, vu ce chiffre. Alors, pourquoi un contrat en CDI est-il autant convoité, y compris par des jeunes que l'on dit pourtant dynamiques, avec des projets prometteurs ? Bien, tout simplement parce que la protection contre les risques engendrés par la création d'entreprises reste finalement très faible en France. Le risque est d'abord financier, bien sûr, puisque 52% des jeunes, dans ce même sondage, estiment que l'aléa financier lié au lancement d'une activité est le principal obstacle à la création d'entreprise, et 46% s'inquiètent de la variation des revenus qui sera liée à leur travail en tant qu'indépendant. Que faire en cas de rupture d'activité? Comment tenir plusieurs mois sans client, sans avoir d'apport financier par ailleurs? Ces questions, elles freinent même les meilleures volontés, et elles commencent à avoir un tout début de réponse dans le programme de certains candidats à la présidentielle. Alors, bon, c'est le cas de François Fillon, je suis prudente, il est encore candidat, mais on ne sait pas pour combien de temps. Alors, il propose, lui, par exemple, de faire cotiser sur la base du volontariat, ce qui limite un petit peu l'ampleur du dispositif, les entreprises qui font appel à des travailleurs indépendants. Ces cotisations alimenteraient un fonds de garantie qui servirait à verser des indemnités aux travailleurs indépendants en cas de rupture d'activité. Alors Emmanuel Macron, de son côté, penche lui pour une étatisation du système d'assurance chômage qui permettrait d'indemniser à la fois les salariés démissionnaires, donc là c'est vraiment très large, mais aussi les travailleurs indépendants qui seraient en panne de clients. Alors comment serait financé le dispositif? Par qui? Avec quel niveau de cotisation? Là on est encore dans le grand flou, peut-être qu'il va préciser dans les jours qui viennent. Mais une chose est sûre, une indemnité avec un spectre aussi large ne serait sûrement pas aussi généreuse que le niveau d'allocation que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors, si ces propositions ne sont pas encore très précises, je vous l'accorde, elles
prouvent
tout de même...
Et nous n'avons pas celle de Benoît Hamon.
Voilà, c'est vrai, pas encore, c'est vrai. Il existe quand même une vraie préoccupation sur la protection sociale des travailleurs indépendants. Étant qu'aucune réponse crédible n'aura été apportée sur le sujet, trois quarts des jeunes préféreront toujours un CDI, même si c'est un parcours du combattant, même s'il est même payé, plutôt que de se lancer dans une aventure entrepreneuriale.
En attendant mieux, merci beaucoup Marie Bellon. Allez, encore un chiffre un tout petit et nous désannonçons déjà. Sébastien Jean, pardon mesdames.
10 milliards d'euros, c'est le montant annuel de l'investissement dont on aura besoin dans la rénovation thermique des bâtiments en France si l'on veut atteindre les objectifs du gouvernement. Je le tire du billet L'économie internationale en campagne qu'on a publié cette semaine. C'est un effort du CEPI pour informer sur les enjeux d'économie internationale. Et je trouve ça intéressant parce que c'est au confluent de la besoin de relancer l'investissement et de lutter contre le changement climatique.
On retrouvera tout ça en référence, pour les autres chiffres. On y reviendra plus tard, c'est promis. Laetitia Coyard réalisait notre émission avec Jacques Hubert aujourd'hui. Marie Bellon, donc, pour les échos. Laurent Genepin, bien sûr, préparation, documentation. On retrouvera également une note de Laurence Daziano, fort intéressante, sur repenser notre politique commerciale. C'est la fond de Paul, de Sciences Po. Merci aussi à Aurélie Trouvé, bien sûr, les textes d'attaque. Venez nous retrouver également sur Twitter. Très bonne semaine à tous. À suivre les informations.